ALDE, Haute Autorité de lutte contre les discriminations, a été mise en place en 2004 et permet notamment de recueillir les plaintes de personnes victimes de discrimination. Mais avant, quelle structure trouvions-nous ? En Languedoc-Roussillon, un collectif d'associations s'est mis en place pour répondre aux problèmes de discrimination dans l'accès au logement, à l'emploi ou encore à l'éducation. Les associations membres peuvent avoir de l'information, un conseil juridique et des ressources peuvent être consultées via Internet. L'accès s'est mis en place dans les années 2000, mais avec Christophe Perrin, son responsable, nous allons parler de la question de la discrimination dès les années 80.
Alors pour comprendre la naissance de ce réseau, il faut se reporter quelques années en arrière. Nous avons commencé à travailler sur les discriminations fin des années 90 avec la mise en place d'une permanence juridique pour les victimes de discrimination. À partir de ce travail, nous avons pu monter un certain nombre de dossiers et on va dire qu'à la fin des années 90, début des années 2000, on a rencontré toute une série de difficultés sur ce terrain. D'abord, des difficultés, on va dire, juridictionnelles, sociologiques aussi, à savoir que si on commençait à parler des discriminations, même si on avait un discours qui tendait à se développer sur la question des discriminations, en même temps, nous étions confrontés à un refus de traitement réel des cas de discrimination. Refus, on va dire, de l'ensemble des institutions et particulièrement des tribunaux.
Parce que la loi n'était pas prête, en fait, il n'y avait pas de loi.
On a des lois en France de lutte contre les discriminations depuis un certain temps, puisque les lois Plévin datent de 72, donc on a des textes depuis 1972, mais qui sont problématiques. Ils sont problématiques d'un point de vue technique, à savoir d'abord que ce sont des textes du code pénal, donc les articles 225.1, 2 et suivants, et que pour faire condamner quelqu'un qui commet un délit de discrimination au pénal, il faut démontrer l'intentionnalité de la discrimination. Il ne suffit pas de démontrer la matérialité des faits avec un préjudice, il faut démontrer que la personne avait bien l'intention de discriminer. Donc ça veut dire être quasiment dans la tête de la personne qui commet le délit. Donc il y a une grosse difficulté, il suffit devant un prétoire que la personne mise en cause dise « mais écoutez, je suis désolé, j'ai peut-être fait ça, mais je n'avais pas l'intention de le faire », c'est terminé, relax, il n'y a pas d'intentionnalité. Donc il y avait cette grosse difficulté, et puis il y avait aussi un refus, on va dire, des magistrats de traiter ces questions-là. Il y a toute une série de causes qui tiennent certaines d'abord à la magistrature, d'abord parce que depuis des années, on va dire que les magistrats sont engagés dans des procédures de plus en plus rapides de traitement de la petite délinquance de rue, où on retrouve très souvent des jeunes, issus des quartiers populaires. Donc ce sont, on va dire, les coupables types de la société française à toute une série de maux. Et on a depuis des années des dispositifs qui font de cette délinquance-là la priorité la plus absolue. Or, quand on prend l'habitude, tant au niveau des services, on va dire, de la justice que des services de la police, à désigner cela comme les fauteurs de troubles principaux, quand ils peuvent se présenter comme des victimes de discrimination, ça leur pose un peu problème. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième difficulté tient moins à la magistrature qu'à l'ensemble de la société française. À savoir que le concept, l'idée de discrimination est quelque chose de relativement nouveau en France. Donc même, comme je disais, c'était inscrit dans les textes, mais ces textes étaient inappliqués. On avait tendance à expliquer toute une série de réalités sociales en France à partir d'un concept qu'on a développé dans les années 80, qui est celui d'intégration. Toutes les difficultés finalement que pouvaient rencontrer un certain nombre de gens, et notamment issus de la migration, relevaient de la problématique de l'intégration. Si vous avez des problèmes, c'est parce que vous n'êtes pas intégré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vous mettre en place de nouvelles politiques d'intégration. Et on analysait absolument tout à partir de cette grille de lecture. Et bien évidemment, on passait à côté de toutes les discriminations. Et cette explication, on pourrait revenir là-dessus, hein, à ce qui s'est passé dans les années 80, mais elle avait l'avantage pour la société française de lui renvoyer une image assez positive, où finalement, C'est une société qui n'était pas loin d'être parfaite, avec son modèle, ce qu'on appelait le modèle d'intégration à la française. Et s'il y avait des problèmes, c'était renvoyé individuellement sur des personnes, et des personnes particulières. Mais la société, elle, n'avait pas à s'interroger, à un moment donné, sur ce qui pouvait se passer de façon réelle en son sein. Donc tout allait bien. Le concept de discrimination remet en cause fondamentalement ça. Ça pose une réalité, c'est que y a des problèmes d'égalité et d'égalité dans cette société, et que la société est traversée par de la production de façon très concrète d'inégalités.
2000 marcheurs silencieux environ cet après-midi à Poitiers pour la marche de l'égalité et contre le racisme. Une quarantaine d'organisations de la région étaient à l'origine de cette marche qui s'est achevée place de la préfecture où les manifestants ont déposé une carte adressée au président de la République.
Les années 80 sont vraiment un moment charnière dans notre histoire et notamment sur ces questions. 83, c'est la marche pour l'égalité, la marche contre le racisme et pour l'égalité, qui arrive à Paris en décembre 83, avec des centaines de milliers de personnes qui accompagnent les marcheurs. Donc un événement historique évident, porté par des jeunes Français issus de l'émigration, qui disent deux choses. Qui disent, un, on en a assez d'être tirés comme des lapins par les policiers, puisque dans l'année 82-83, il y avait eu toute une série d'assassinats racistes qui s'étaient déroulés. Et la deuxième chose, ils disent, écoutez, nous, on est Français, nos parents étaient peut-être étrangers, mais nous, nous sommes Français, nous avons grandi ici, nous sommes allés à l'école ici, nous avons acquis des qualifications ici, nous ne sommes pas traités de la même manière, nous sommes traités différemment, et nous, ce que nous réclamons, c'est l'égalité. Donc ça, dans ce moment historique fort, c'est ce qui est posé. Et la réponse à l'époque a été complètement manquée, puisque lorsque les marcheurs ont été reçus à l'Élysée par François Mitterrand, la grande mesure qui a été présentée comme réponse à ce mouvement, ça a été la carte de 10 ans. Donc, carte de 10 ans, nous, à la CIMAD, bien évidemment, s'en félicite. C'est important, ça stabilise à un moment donné le parcours de personnes qui peuvent se trouver ici, de personnes étrangères qui peuvent se trouver ici. Mais ce n'est pas une réponse à la bonne question. La question qui est posée, c'est une question d'égalité pour des jeunes Français qui étaient d'ici. Donc, une mesure concernant la politique d'immigration, ça n'a absolument rien à voir. On n'a pas su répondre. Et puis, à l'époque, et ça, tous les politologues aujourd'hui en conviennent, on assiste à deux choses. Un, à l'instrumentalisation par le Parti Socialiste de l'extrême droite, contre ce qu'on appelle la droite républicaine, pour affaiblir la droite républicaine. Ça, aujourd'hui, c'est une donnée qui est reconnue absolument par tous les gens, tous les politistes qui ont pu travailler sur la question. Deux, c'est l'émergence aussi d'un mouvement alors qui va connaître un essor indéniable, donc c'est SOS Racisme, qui a été pensé, mis en place par certaines personnes au Parti Socialiste, et qui était indéniablement une tentative de récupération de l'énergie manifestée, entre autres, pendant cette marche pour l'égalité. Alors, autre point, c'est que sur la réponse, donc, on a vu de façon très pragmatique ces cartes de 10 ans, et la deuxième, pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, c'est l'importance des mots. Très vite, on a parlé de marche des beurs. Or, c'était la marche contre le racisme et pour l'égalité. Et on a parlé de marche des beurs. Donc, une demande d'égalité, et on voit par les mots qu'on va vers une réponse qui est quelque part ethnicisante, marche des beurs, des Arabes. Donc, on les renvoie à cette origine. Faut pas oublier en plus que parmi les marcheurs, il y avait des gens d'origine très diverses. Il y avait des Portugais, il y avait des Espagnols. Mais finalement, on a réduit à ça. Et la société, parce que ça a été médiatique, politique, tout le monde a trouvé son compte à réduire cet événement à cette dimension-là. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est le moment aussi où on théorise la notion d'intégration. La notion d'intégration, c'est une notion qui est connue en sociologie. C'est un terme, un concept développé par Durkheim, mais qui ne s'applique co-société. C'est-à-dire, on va parler du niveau d'intégration d'une société, du niveau d'interaction sociale, de complexité sociale. Et là, on va en faire une utilisation, on va dire, politique, où on ne va plus s'en servir comme un qualificatif d'une société, mais d'un groupe de personnes. Et on va, là, l'appliquer à ces jeunes, puisqu'on ne leur répond pas sur l'égalité, et puisque la société française n'a rien à se reprocher, on va leur dire, écoutez, vous avez des problèmes, on est prêt à le reconnaître, mais ces problèmes, ce sont des problèmes d'intégration, et ils sont dus à vos origines étrangères. Donc, on va vous intégrer. Et on met en place, à la fin des années 80, d'ailleurs, toute une série de politiques d'intégration. On va créer le Haut Conseil à l'intégration en 89. On va mettre en place toute une série de politiques visant à intégrer des gens qui l'étaient déjà. Et bien évidemment, ça n'a pas marché.
Oui, bonjour mademoiselle. J'ai rendez-vous avec monsieur Lemaître, s'il vous plaît. Je suis monsieur Omar.
Vous êtes...
Monsieur Omar.
Monsieur Omer.
Non, pas Omer, Omar.
C'est concernant.
Concernant la
cuisine. Vous êtes.
Je suis monsieur Omar. Pas monsieur Omer, monsieur Omar.
Ah. Ring. Bonjour, je postule pour le job vacant. L'employeur me regarde avec un air de dire va-t'en. Faut être blanc ou depth, mon gros n'est le play up. Et mon profil n'est pas celui d'un mec abonné au théâtre.
Bon alors, vous avez un bac plus 3.
Tout à fait.
Et déjà 15 CDD en seulement 2 ans d'expérience. Ceci traduit une instabilité, monsieur Omar, vous savez. Nous recherchons des personnes aussi un peu plus diplômées.
Mais l'annonce disait...
Ah, l'annonce a été très mal rédigée. Hein. Je suis désolé, ma secrétaire va vous accompagner. Hein. C'est bon ? On a fait le tour ? Hop, 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 c'est par là.
Donc là, on est revenu sur la genèse. Hein, ce qu'il y a avant votre réseau régional pour l'égalité de traitement et l'accès aux droits. Parlons maintenant du maillage, un peu, hein, de ce mouvement.
Revenons, on va dire, au début des années 2000, où nous menons ce travail sur la question des discriminations, où nous recevons des victimes. Une des difficultés que l'on rencontre là, c'est une réponse ou une espèce de leitmotiv qu'on nous renvoie, tant d'un point de vue des institutions, mais que de la part aussi de toute une série d'associations. Écoutez, la discrimination, c'est une affaire de militants, c'est pas une affaire de professionnels. Et donc, nous, les bons professionnels, on va pas s'occuper de ça. Nous, on va travailler sur l'intégration, sur l'insertion, enfin, sur toute une série de choses. Mais tout ça, bon, ça relève des militants. Donc, allez-y, la CIMAD, débrouillez-vous avec ça. Ce qui est fondamentalement faux. C'est-à-dire, la question des discriminations ne relève pas de la militance. La question des discriminations, ça relève souvent de pratiques professionnelles, ça relève d'une bonne capacité d'analyse de ce qui peut se produire dans le monde social. On était un petit peu renvoyés comme les empêcheurs de tourner en rond. Bah, oui, la CIMAD nous parle de ça parce que c'est la CIMAD et bon, c'est leur rôle. Ils sont un petit peu radicaux. Là, on se retrouvait quelque part dans une impasse, parce que finalement, on arrivait à nous enfermer dans cette position-là. D'où la réflexion qu'on a eue, se dire qu'il faut absolument arriver à diffuser, à un moment donné, ce savoir, cette culture sur la discrimination, qui est tant sociologique que juridique, et la développer certainement avant tout auprès du milieu associatif que l'on peut côtoyer sur cette région. Donc cette idée est née de mettre en place un outil qui permette de diffuser cette information, d'essayer d'entraîner d'autres associations à venir sur ce terrain-là. Donc ça date des années, on va dire, 2003-2004. Et donc, nous mettons ce travail en place en 2005, en commençant par mener une enquête auprès d'une centaine d'associations sur la région, hein, des Pyrénées jusqu'au bord du Rhône, en allant rencontrer les directeurs ou les équipes d'animation de ces associations. D'abord en leur demandant bon, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, sur quoi vous travaillez, et sur la question des discriminations, qu'est-ce que vous faites ou comment vous voyez cette problématique-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt à travailler sur ces questions? Et le résultat de l'enquête que l'on mène, d'abord, c'est majoritairement des gens qui nous disent écoutez, on est dans la difficulté parce que on a pris un pli. On travaille d'une certaine façon sur ces questions, et notamment à partir d'outils ou de grilles de lecture qui nous mènent quelque part dans une impasse. On voit bien et on se rend compte que des situations de discrimination existent. On ne sait pas faire. Il faudrait qu'on arrive à venir sur ce terrain-là. Donc, écoutez, oui, ça nous intéresse. Dans la grande majorité, les gens disent oui, ça nous intéresse de participer à un travail un petit peu collectif sur ces questions-là. Donc, à partir de ce retour très positif, l'idée est de mettre en place un outil régional, où les associations qui s'inscrivent ne sont tenues à rien. C'est-à-dire on va pas, à un moment donné, faire signer une charte, leur dire « vous allez faire ceci, vous vous engagez à cela ». L'idée est de prendre les associations là où elles se trouvent, à leur niveau de connaissance ou d'implication sur la question des discriminations, où elles sont, et sans culpabiliser les gens ou leur disant c'est ceci qu'il faut faire ou cela, cheminer ensemble en se disant il va certainement se passer des choses, il va y avoir des déblocages ici ou là dans différents lieux, et l'idée sera de saisir à la volée ces moments pour accompagner le travail qui peut être mené par ces associations. Donc on est au niveau régional, donc pas question de rajouter un niveau de réunionnite supplémentaire à ceux que connaissent déjà les associations, qui pour certaines passent leur temps en réunion avec les institutions. Donc le choix est fait de travailler avec des outils Internet. Donc deux qui sont principaux au départ, donc ils sont un site Internet, égal traitement.net, qui permet à un moment donné de valoriser un certain nombre de choses qui peuvent se faire sur la région, donner de l'information, d'abord juridique, parce que la discrimination, c'est d'abord une affaire de droit, donc de quoi on parle. Il y a des textes en droit pénal, mais il y a des textes en matière de droit du travail, en matière de logement. N'oublions pas qu'en 2004, donc, on a la création de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Donc là aussi, on a une institution nouvelle qui vient travailler sur le champ et qui facilite énormément, d'ailleurs, le travail. Amener de la littérature sociologique, puisqu'il faut, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi, à un moment donné, ces pratiques se développent, alors que en France, on est un pays qui est extrêmement marqué par le principe d'égalité. Or là, on est dans la négation totale du principe d'égalité lorsque se commettent des discriminations. Enfin, toute une série de choses. Donc, premier outil, le site Internet. Une liste de diffusion, donc qui vient compléter le site Internet avec, on va dire, de l'information beaucoup plus actuelle, au jour le jour, diffusée sur ce qui peut se passer en région, mais aussi sur des condamnations qui peuvent advenir devant des tribunaux sur la région ou d'autres régions, des événements qui peuvent s'organiser, des articles de fond qui peuvent passer par la presse et qu'on peut reprendre. Et puis, un troisième outil qui est une cellule juridique en ligne, où les membres du réseau peuvent solliciter cette cellule, qui est composée matériellement de personnes physiques, parce qu'elle est composée de quelques avocats et de moi-même, et les associations peuvent, à un moment donné, soumettre, dire, voilà, on est confronté à telle situation, bon, il y a des champs à remplir, on reçoit ça sur nos boîtes mail, et on répond dans les 10 jours en disant, écoutez, cette situation relève de la discrimination ou elle ne relève pas de la discrimination. À l'association en question, après, à voir ce qu'elle peut faire dans le traitement. Mais là aussi, on est, on va dire, dans le pas à pas. Il y a une grande difficulté pour le milieu associatif de se saisir de du droit répressif vis-à-vis d'une entreprise, vis-à-vis d'une agence immobilière ou vis-à-vis d'un autre acteur, de rentrer dans une logique de conflit juridique. Donc cet outil rentre dans cette démarche d'aller pas à pas vers un traitement de discrimination.
C'était Christophe Perrin, responsable de l'Accès, réseau associatif en Languedoc-Roussillon de lutte contre les discriminations. Sur le site www.égaltraitement.net, vous pourrez trouver une ressource documentaire ainsi que les combats menés par les associations membres. Dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons des cas précis de discrimination.